Nous sommes chez Louis Ferdinand Céline, dans la pièce qui lui sert de salle à manger.
En 1958, le journaliste André Parineau s'est rendu jusqu'à Meudon, chez Louis Ferdinand Céline, et une question le taraude.
Est-ce que vous vous méprisez vous-même ?
Ah, je ne me méprise pas du tout, je me trouve très honnête, très valeureux, très sacrificiel, ayant bien donné, beaucoup donné aux hommes, et eux qui m'ont répondu par des vacheries, ben, c'est tout ce que je vois.
3 ans avant sa mort, Céline cherche à imposer un contre-récit. La victime de la guerre, c'est lui.
On est venu me demander si j'avais des complexes, mais je dis, c'est tous les autres qui doivent avoir des complexes à mon égard, mais moi je n'en ai pas du tout au leur, j'ai fait tout ce que je pouvais pour eux, et je crèverai en disant que j'ai été injustement traité.
Après son exil au Danemark, Céline a une obsession, diluer sa responsabilité.
J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
À la fin de l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés en février 1950, au moment où la Cour de justice en France condamne Céline par contumace.
La Cour se retire pour délibérer.
Coupable, il échappe néanmoins à la prison. L'écrivain collaborationniste, toujours en exil, a donc réussi son coup, il reste libre. Mais désormais, quel choix s'offre à lui ? Rentrer à Paris ? Pas sûr. Céline a vu ses biens confisqués et il est frappé d'indignité nationale. C'est infamant pour l'ancien combattant de 1914. Alors, rester au Danemark ? Pas sûr non plus. Cet exil forcé en Europe du Nord ressemble à un aveu de culpabilité à perpétuité. C'est alors que Céline va profiter du contexte de l'époque et grâce aux manœuvres de son avocat, il va même jouir d'une amnistie bien douteuse. Une entourloupe comme point de départ d'une entreprise de réhabilitation qui a permis d'escamoter l'idéologie toxique de Louis Ferdinand Céline.
Louis Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Louis Ferdinand Céline, Le Voyage sans retour. 9e épisode, Le Roi des embrouilleurs.
Ça a débuté comme ça.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été à un moment et en oubliant certains de ses livres ?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale.
Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
Le récit commence à Buenos Aires, en Argentine, à la fin de l'année 1948. L'acteur Robert Le Vigan, fasciste agité et ami de Céline, vient de purger 3 ans de détention à Fresnes, condamné pour fait de collaboration. Et à sa sortie de prison, Le Vigan choisit de quitter la France pour l'Amérique du Sud, un exil volontaire. Une fois sur place, il renoue avec Céline.
Lorsque j'ai été libéré,
Robert Le Vigan, 1974.
Nous avons repris notre correspondance et c'était en 1948. Lui-même avait été libéré au Danemark. Après avoir fait 2 années de réclusion.
Donc, depuis le Danemark, où il attend que se tienne son procès à Paris, Céline écrit à son ami Le Vigan. Nous sommes en 1948. Alors, de quoi parle-t-il dans ses lettres ? Eh bien, c'est Le Vigan lui-même qui nous lit le courrier écrit par Céline.
Mon cher vieux, te voilà foutu camp aux Amériques. Tu as raison. On ne s'en reverra sans doute jamais.
Tu vas retrouver les mêmes youtres là-bas, bien sûr, bien lope, donneur et salope et collabo, pire encore, écris. Quand tu seras installé, tout ton écœurement va. Attends d'avoir passé les trois premières semaines romantiques de l'arrivée. Pour nous, vois-tu, c'est cuir.
En 1948, après la mort de 6 millions de Juifs, donc, Louis Letouche s'entête dans ses obsessions antisémites. Et en février 1950, à Paris, la justice le condamne pour avoir accompli des actes de nature à nuire à la défense nationale, avec l'intention de favoriser l'Allemagne nazie. Aucune ambiguïté. Or, le 20 avril 1951, son nouvel avocat, maître Tixier-Vignancourt, figure de l'extrême droite, lui passe un coup de fil. Céline n'en revient pas et s'empresse dans la foulée de lui écrire un mot.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Jean-Louis Tixier-Vignancourt, le 23 avril 1951. Mon cher maître et ami, nous nous remettons à peine de ce coup de téléphone, de cette fantastique émotion. Les miracles, vous le savez, ne sont point tenus pour véritables miracles avant scrupuleuses enquêtes, conciles, etc. Car enfin, miracle il semble, et vous êtes l'astrologue sorcier gris-gris.
De quel miracle parle-t-on ? Eh bien, le 20 avril 1951, Louis-Ferdinand Céline a été amnistié par la justice française. Un coup de théâtre.
À mon commandement.
Alors, suivez bien.
Bravo.
Car c'est un dossier complexe, mais c'est essentiel.
Présenté. Ah !
Messieurs, la cour.
D'abord, en 1951, les cours de justice de l'épuration n'existent plus. Elles ont été remplacées par des tribunaux militaires. Et dans le cas de Céline, au printemps 1951, les juges doivent statuer sur sa condamnation par contumace prononcée un an plus tôt. Autrement dit, le jugement doit-il être définitif ou pas ?
En fait, le 20 avril 1951, à la caserne de Rueil, il y avait des magistrats civils et des magistrats militaires.
Anne Simonin est historienne.
À qui donc on a fait passer à la fois, évidemment, l'arrêt de jugement de la Cour de justice pour dire qu'est-ce qu'on fait avec Céline ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va se représenter devant nous et qu'il va, ce qu'on appelle, purger sa contumace ? Parce qu'on sait systématiquement qu'un jugement par contumace est toujours plus dur qu'un jugement contradictoire, parce que vous dites, bah, c'est une façon d'obliger Céline à se représenter. Et donc, est-ce qu'on imagine que Céline va venir purger sa contumace, ou est-ce que le jugement devient définitif ? Et l'audience du tribunal militaire dit, le jugement est définitif.
Et vous, messieurs, vous êtes pour ?
Donc, très important.
Oui.
Le 20 avril 1951, les juges ont confirmé la condamnation de Louis-Ferdinand Céline.
Nous avons fait la moitié du travail, mais l'après-midi s'avance, il nous reste encore trois affaires importantes.
Sachez que depuis août 1947, la République aspire à amnistier certains condamnés de l'épuration dans un esprit de réconciliation nationale. Mais le 20 avril 1951, à aucun moment n'a été évoqué devant le tribunal militaire le fait d'amnistier Céline.
Alors que la question de l'amnistie de Céline n'a pas été posée au juge. Et j'insiste sur ce point parce que c'est fondamental. Eh bien, on va voir surgir, sur l'arrêt de jugement, une mention manuscrite qui va accorder l'amnistie à Céline au nom de la loi d'amnistie du 16 août 1947, qui considérait qu'on pouvait amnistier les anciens combattants à condition qu'ils n'aient pas été condamnés pour fait de collaboration. Alors je reprends. On n'a jamais posé une question à des juges qui ont répondu qu'ils étaient d'accord pour accorder l'amnistie à un ancien combattant qui avait été condamné pour fait de collaboration et qui était explicitement exclu du texte de l'amnistie. Pas mal. Donc, restons sur le terrain de la logique, ça s'entrechoque à tous les niveaux. Le texte de la loi du 16 août 1947 ne pouvait pas concerner Céline parce qu'il était un ancien combattant, mais qu'il avait été condamné pour fait de collaboration. Et la question de l'amnistie n'a pas été posée au juge. Alors, comment pouvez-vous justifier que les juges répondent à une question qui leur a pas été posée et qui est une violation de la loi qu'ils sont censés appliquer? Alors, je sais bien qu'ils sont pas très malins, les juges. Ils sont tous corrompus, mais quand même, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors justement, c'est ça qu'il faut expliquer. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde a considéré que on a repris une histoire extrêmement drôle, n'est-ce pas, qui a été fabriquée par Céline en 1957, qui a été orchestrée par Maître Tixier-Vignancourt, et qui consistait à dire, les juges étaient tellement nigauds, puisque c'est normal, c'est des militaires, qu'ils ne savaient même pas que des touches, qui est le nom de Céline, et Céline, qui est un pseudonyme, était une seule et même personne. Donc, ils ont accordé l'amnistie à Louis Destouches. Et comme Louis Destouches était un ancien combattant et que lui n'avait pas été condamné puisque ça n'était pas la même personne que Céline, il est donc normal qu'ils aient appliqué la loi du 16 août 1947. Et donc, c'est parce que les juges, en plus de ne pas connaître la loi, en plus de ne pas savoir lire, parce que quand même, leur a été transmis le jugement de la Cour de justice qui dit bien Louis Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline. Ça, c'est noir sur blanc. Alors, donc, les juges ne savent pas lire. Et ils vont donc, en quelque sorte, amnistier Céline par bêtise, puisqu'ils ignorent que Destouches et Céline sont une seule et même personne.
Vous avez perçu l'ironie dans les propos d'Anne Simonin. Car affirmer que les juges se sont emmêlés les pinceaux entre Destouches et Céline, c'est une vieille stratégie célinienne, sans doute pour dissimuler une complicité au plus haut niveau de l'appareil d'État. Cette amnistie, ajoutée à la main, constitue a priori un faux en écriture publique. Alors comment peut-on expliquer cet imbroglio ?
Là, l'important, c'est vous êtes en fin de processus d'épuration. Et le ministre de la Justice, qui est René Maillère, dont Céline fait un homme assoiffé de sang, qu'il appelle le duc de Montrouge, le duc de Vendôme-Montrouge, en disant, évidemment, comme il est juif, il est forcément contre moi, et Céline nous a, d'une certaine façon, tous leurrés là-dessus. Enfin, moi, je sais, je me suis dit quand même, c'est très clair, Maillère est contre lui. Donc, c'est pas du côté de la chancellerie qu'il faut chercher, ce qui est une immense erreur. Et ce qui est une immense erreur qui est pointée par un juge militaire que je n'identifie pas, qui lui va dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amnistie ? La question de l'amnistie n'a pas été posée. Donc, qui va saisir la chancellerie en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, qui va pointer le faux.
Donc là, pour être très clair, un des juges du tribunal militaire de Rueil se manifeste auprès de la chancellerie pour signaler qu'ils n'ont jamais accordé l'amnistie à Céline.
Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est insensé. Il n'y a absolument rien dans les dossiers.
Comment réagit la chancellerie ?
Et là, silence radio. Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a, et on a du mal à l'imaginer parce qu'on n'a pas accès, au jour d'aujourd'hui encore, à l'ensemble des archives des tribunaux militaires qui ont terminé l'épuration. Mais il y a une chose qui a été pensée par Marc-Olivier Baruche et par Alain Banco et qui s'appelle la désépuration. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une forme de détricotage, mais à grande échelle, des jugements de l'épuration. Pour une raison très simple, c'est qu'on est rentré en guerre froide et que d'une certaine façon, plutôt Céline que Thorez. C'est-à-dire que la polarisation, elle se fait sur les communistes.
Thorez, c'est le secrétaire général du Parti communiste français.
La polarisation, elle se fait sur les communistes. Il y a un anticommunisme qui est extrêmement fort. Et donc, il faut réintégrer les collaborateurs dans la communauté nationale. Et à ce moment-là, à n'importe quel prix.
Alors, on classe, on oublie, on passe à autre chose.
Et on laisse les industriels, les aryanisateurs de biens, les affairistes, les plumitifs qui se pressaient à la soupe rue Lauriston revenir aux affaires et rediriger le pays.
Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Que la moitié de la France colle l'autre moitié au mur ? L'épuration, c'est fini. Il n'y a pas eu assez de morts, pas eu assez de sang pour vous.
Et le prix, en tout cas dans le cas Céline, c'est un faux en écriture publique, qui va être quand même transmis à la Cour de cassation, qui va casser. Alors, il paraît qu'il n'y a pas de problème avec l'amnistie de Céline. Bon, il se trouve qu'il y a quand même un arrêt de la Cour de cassation qui va casser le jugement en faveur de l'amnistie, mais dans ce qu'on appelle dans l'intérêt de la loi. C'est-à-dire que Céline va, d'un point de vue individuel, conserver le bénéfice de l'amnistie, mais son cas ne pourra pas faire jurisprudence. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas continuer d'amnistier au nom de la loi du 16 août 1947, des anciens combattants collaborateurs. Ça, ça n'est pas possible. La Cour de cassation l'a interdit, mais considère que Céline va, lui, conserver le bénéfice de l'amnistie, ce qui explique que, eh bien, effectivement, il soit rentré en France. Et d'ailleurs, il est en France à ce moment-là. Et c'est ça la grande victoire, d'une certaine façon, pour les gens qui l'ont défendu. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais quand on regarde l'histoire du côté du droit, on voit bien que le droit bégaye, quoi, que c'est pas du tout une chose évidente, et que quand on vous présente cette explication de la bêtise des juges qui ne savent pas que Louis Destouches et Louis-Ferdinand Céline sont une seule et même personne, c'est formidable pour le légendaire célinien. C'est très peu productif du point de vue de la vérité historique.
Le problème de l'amnistie qui passionne les débats de l'Assemblée nationale évoque le souvenir des années terribles, des années d'occupation et de résistance.
Archives Pathé.
S'agit-il de rendre à la vie civique les hommes qui ont encouragé ces souffrances et ces crimes ?
1950.
Ou s'agit-il seulement d'accorder le pardon à ceux qui furent les dupes d'une erreur tragique ? Quelle que soit l'issue de ce débat, souhaitons que les Français n'aient pas la mémoire trop courte.
On sent, Anne Simonin, que vous avez beaucoup travaillé le dossier, que vous connaissez ça parfaitement. Il faut quand même préciser que les Céliniens vous en veulent beaucoup de cette histoire d'amnistie et de faux en écriture publique, alors que c'est très grave ce que vous dites, et c'est très intéressant de l'entendre. Hein. La justice française, au départ, avait dit non à l'amnistie, alors qu'aujourd'hui, on peut dire, bah, voyez, l'amnistie, bah, c'était pas si grave tout ça.
Voilà, très honnêtement, l'important pour moi, c'est on y va texte contre texte. Les excommunications, finalement, ça ne n'intéresse que ceux qui les produisent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me produise des contre-preuves. Et voilà, et qu'on vienne me dire « votre interprétation de tel document est erronée ». Tant que ce travail-là ne sera pas fait, je persisterai et je continuerai à défendre l'idée que l'amnistie accordée à Céline est un faux en écriture publique, non pas parce que je veux être méchante envers Céline, mais parce qu'il y a des choses qui ne se font pas dans le cadre du rétablissement de la légalité républicaine.
Et je serais parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à cour qu'on ait organisée dans l'histoire. Et dame, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas ?
La stratégie judiciaire de Céline, avec le hareau, avec les lettres au juge, était une stratégie très originale pour un écrivain. Il n'y aura pas de stratégie littéraire plus efficace, me semble-t-il, que celle de Céline. Mais tout ça eût été un feu de paille s'il n'y avait pas eu, au niveau du ministère de la Justice, au niveau de la chancellerie, la volonté de mettre un terme à l'épuration. Et quel que soit le prix à payer.
Voilà, bon, rideau, point final. On tourne la page. On reconstruit. On reconstruit.
Et vous savez comment on reconstruit en période de vache maigre ? En recyclant les matériaux recyclables.
Condition, j'imagine, qu'ils ne soient pas trop pourris.
Et c'est ça qui me sidère. C'est-à-dire que les collaborateurs, que les collaborationnistes aient attaqué la justice de la résistance, d'une certaine façon, fair enough. Mais que ce soit de l'appareil d'État de la 4e République, que soit venue la possibilité de laisser s'exprimer ces critiques et d'innocenter à terme les collaborateurs, pour moi, c'est un peu exagéré.
J'ai marché en pensant à la France. La pauvre.
Cette amnistie plus que douteuse permet à Céline de rentrer en France, où il atterrit à Nice avec Lucette le 1er juillet 1951.
Paris, gare de Lyon, terminus. Tous les voyageurs descendent du train.
Après quelques jours passés à Menton, Céline rejoint la région parisienne, où l'auteur du Voyage au bout de la nuit a perdu son éditeur. En effet, le 2 décembre 1945, dans des conditions qui demeurent troubles, Robert de Noël a été assassiné en pleine rue à Paris. Mais dès son retour en ville, Louis-Ferdinand Céline retrouve une maison d'édition.
Il a quand même signé un contrat avec Gallimard dès 1951.
Philippe Roussin, historien.
Donc, grâce aux résistants qui ont abattu de Noël, au fond, Gallimard récupère Céline. Bon, Gallimard avait refusé le Voyage au bout de la nuit. Hein. Et donc, le contrat est très intéressant parce que c'est la reprise des œuvres, plus les livres à venir. Mais dans la reprise des œuvres, il exclut explicitement les pamphlets. Donc il refuse que les pamphlets soient réédités. Bon, pour des raisons qui, à mon avis, sont des raisons d'opportunité. Mais enfin, le contrat est là.
En 1951, quelle place occupe Louis-Ferdinand Céline dans le paysage de la littérature française ?
Il n'existe plus. Il n'est plus rien.
Émile Bramy, biographe de Louis-Ferdinand Céline.
C'est-à-dire que pendant tout son exil danois, il va claironner qu'il est en train d'écrire un livre qui s'appelle Féerie.
Bravo.
Et que ce livre va lui redonner sa place dans le paysage littéraire français.
Bravo.
Or, il se trouve que, d'abord, le livre est trop important en volume. Il va être divisé en deux parties. Une première partie qui s'appellera Féerie 1 et une seconde partie qui s'appellera Féerie 2 Normance. Le premier Féerie sera publié en 1952, c'est-à-dire peu après son retour en France, et le second en 1954. Si bien que Céline, par crainte, interdit à Gallimard de faire toute publicité sur son livre. Il pense que son nom et son retour suffit à lui garantir une rentrée triomphale. Or, le premier Féerie va être vendu à 7000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est un succès. Mais en 1952, 7000 exemplaires, c'est ce que vend un débutant. Il ne vend pas plus qu'un débutant, avec des critiques qui sont mauvaises. Parce que c'est la limite du style de Céline. C'est-à-dire, il écrit un livre dans lequel il ne se passe rien, rien. Sinon le bombardement de la butte Montmartre en avril 1944. Et il pense faire tenir ça, c'est-à-dire sans rien, uniquement avec son style. Et ça marche pas.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous ne vous vendez plus. Il faudra bientôt vous donner.
Le retour de Céline en librairie après-guerre est un échec cuisant. Il ne fait plus recette. Exaspéré, il va nourrir sa posture victimaire. Et notamment en jouant sur une histoire ancienne. Revenons 2 ans en arrière. Voici une lettre de Céline, écrite à son avocat, Maître Tixier Vignancourt. Nous sommes en 1949.
Mon cher maître, mon domicile, 4 rue Girardon à Paris, a été pillé par 3 équipes de libérateurs, puis occupé par M. Moranda.
Les oiseaux se sont envolés.
Oui, ça en a tout l'air.
On l'a un peu cherché. On ne devrait pas enfoncer la porte.
Je sais qu'on a retrouvé mes manuscrits dans les boîtes à ordures de l'avenue Junot. Peu de chance donc de retrouver actuellement à Paris les papiers ou demandes qu'on me réclame. Qu'on me laisse enrichir la littérature française de nouvelles œuvres. Voilà qui est faire acte de patriote.
Donc, en 1949, Louis-Ferdinand Céline se plaint d'avoir été spolié au moment de la libération de Paris. Spoliation orchestrée par un certain Yvon Moranda. D'abord, qui est-il ?
Moranda, c'est quand même un résistant de la première heure. Alors, avant la guerre, c'est un syndicaliste chrétien. Donc, quand je dis que c'est un résistant de la première heure, il rejoint Londres dès le 18 juin.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français.
Il est parachuté en France en 1941 pour rejoindre Jean Moulin. Donc, on est vraiment au cœur là, des choses. Et notamment, parce qu'il a été syndicaliste chrétien, pour rallier, au fond, tous les syndicats de la zone sud à De Gaulle. Bon, voilà. Et donc, il est contraint de repartir à Londres, parce qu'en fait, il est condamné à mort à ce moment-là, etc. Bon, il va être à nouveau parachuté en France. Et puis, bon, il participe à la libération de Paris le 25 août 1944, puisqu'en fait, c'est lui, pratiquement tout seul, qui prend l'hôtel Matignon. Et donc, ensuite, bon, il va faire une carrière de dignitaire gaulliste, dans le parti gaulliste, et puis il sera même une sorte de chrétien social, hein, des gaullistes de gauche, comme on disait. Et puis, mais ce n'est pas un grand dignitaire du régime, et donc il sera quelque temps secrétaire d'État sous Pompidou, et il meurt en 1972, en fait.
Yvon Moranda, c'est vous.
Yvon Moranda, dans Radioscopie, 1970.
Vous avez été favorisé par l'amitié de Léon Blum, de Georges Bernanos, de Charles de Gaulle, de bien d'autres. Yvon Moranda, est-ce que vous seriez encore prêt à vous engager politiquement, mais d'une façon très efficace, s'il arrivait quelque chose?
S'il le fallait, bien entendu. Écoutez, s'il fallait lutter contre un fascisme, quel qu'il soit, contre une occupation de mon pays, eh bien, je rentrerai dans le coup comme je l'ai fait en 40.
Yvon Moranda, grand résistant et syndicaliste chrétien, est un des acteurs de la libération de Paris en août 1944.
Yvon Moranda va réquisitionner l'appartement de Céline pour l'occuper.
Rentrez, messieurs, c'est ici. La chambre est là.
Et donc, Moranda va faire ce qui, à mon avis, est une chose très intelligente. Il va rassembler ses papiers et il va les mettre dans un garde-meuble.
Et tout ça se trouve allée 27.
De la même façon qu'il va mettre des meubles au garde-meuble de Céline.
27, voilà. J'ai la liste du mobilier.
L'historienne Anne Simonin.
Évidemment, Céline, lui, va, dans sa correspondance, très tôt, commencer par dire qu'on lui a volé tous ses manuscrits. C'est normal, puisque les résistants sont forcément des voleurs. Et il va parler de trois textes inédits et dire à quel point la perte est absolument énorme.
Louis-Ferdinand Céline dans Entretien avec le professeur Y, 1955. Tenez, supposez, professeur Y, sans vous parler politique, que vous vous trouviez un beau jour dans le mauvais cas d'être épuré. Épuré, n'est-ce pas? Avant tout, ça veut dire voler. Qu'est-ce qu'on vous volera d'abord? Sur quoi se jetteront vos épurateurs d'abord? Mais sur toute votre saloperie, pardi! Tout ce qui est à peine montrable chez vous. Vos bonnes choses, on vous les brûlera. On m'a brûlé 7 manuscrits, moi. 7 manuscrits. Les pilleurs ont des goûts de cochon.
Bien. Yvon Moranda, lorsque Céline sera de retour, lui présentera la facture du garde-meuble, où il y a tous ses meubles. Et Céline refusera de la payer. Donc, si vous voulez, je pense que les meubles de Céline ont été dispersés, je ne sais pas comment, mais tout simplement parce qu'il a refusé de payer la facture et qu'il a refusé d'aller chercher les manuscrits en question. Mais si Céline avait voulu récupérer ses biens, il pouvait tout à fait le faire. Il a décidé de ne pas le faire. Et comme toujours chez Céline, comme il faut qu'il soit martyr, cette fois-ci, il a été martyr de la résistance. Voilà.
Oui, c'est important de le redire, Anne Simonin, parce que dans le refus de payer cette facture, il y a évidemment derrière une stratégie, sans doute, qui est en effet de rester ad vitam la victime de cette libération de Paris. Il se place dans encore ce rôle du persécuté.
Oui, et puis surtout, il le dira. Hein. Épuré, ça veut dire être volé. Voilà. Donc, je n'ai pas été épuré parce que j'étais antisémite, j'ai été épuré pour qu'on me vole. Et la preuve qu'on m'a volé, c'est que j'ai perdu tous mes meubles et j'ai perdu mes manuscrits. Or, la pire des pertes pour un écrivain, c'est évidemment ses manuscrits. Donc, vous voyez à quel point je suis une victime du processus d'épuration.
Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?
J'ai déjà fait un premier tri.
Moranda est là à la demande d'autres gens de la résistance pour éviter justement que l'appartement soit pillé.
Philippe Roussin.
Enfin, c'est grâce à la résistance qu'on doit avoir conservé ces manuscrits. Hein.
Qu'on a retrouvé récemment.
Qu'on a retrouvé récemment en 2020-2021.
Je suis malheureux parce que je me considère une victime des vacheries. Voilà, c'est tout. Et que c'est pas juste. Et je le dis.
Louis-Ferdinand Céline, au micro d'André Parineau, 1958.
Et je creverai en disant que j'ai été injustement traité. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que je pense. Et pas du tout aucun complexe de culpabilité. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
Résumons. Dans les années 1950, alors qu'il a refusé de payer la note du garde-meuble pour récupérer ses biens, dont les manuscrits inédits réapparus en 2020, Céline clame sur tous les toits qu'il est victime de la résistance et que ces gens-là ne valent pas mieux que les autres. Sous-entendu, collabo ou résistant, c'est la même chose. On voit bien la mécanique qui consiste à renverser les valeurs, tel le roi des embrouilleurs. Par ailleurs, en 1957, lui vient une idée. Il veut faire un coup.
Il se souvient, je suppose, que ces deux grands romans, Voyage et Mort à crédit, ont connu beaucoup de succès, aussi à cause du scandale qu'ils ont provoqué.
Émile Bramy, biographe de Louis-Ferdinand Céline.
Donc, il décide de provoquer un nouveau scandale. Ce nouveau scandale, c'est d'un château à l'autre. Alors, ça fonctionne. Il y a un scandale. Il retrouve de la presse. Il y a un entretien très connu qui est fait par l'Express. Et il écrit à un de ses amis, « L'Express est venu me voir. Je me suis roulé comme un cochon dans ma fange. » C'est ça, quoi. C'est-à-dire que, là encore, c'est voulu. Voilà, c'est-à-dire que là aussi, il y a un projet.
Céline, je voudrais vous poser une question peut-être un peu naïve pour commencer. Je verrai bien la réponse que vous y faites.
Céline, au micro d'Albert Sbinden, 1957.
Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage, d'un château à l'autre ?
Dame, évidemment, c'est surtout pour des raisons, il faut bien le confesser une fois de plus, pour des raisons économiques, si on parle gentiment.
D'un château à l'autre est dans la continuité des œuvres autobiographiques.
Pascal Horry, historien et académicien.
La fiction du roman n'est même pas vraiment conservée. Céline nous traduit de façon hallucinée son expérience de Sigmaringen, qu'il aurait tendance à appeler Sigmaringen, d'ailleurs en jouant sur les mots, sans le vouloir peut-être, c'est-à-dire qu'il se retrouve, ça c'est très célinien, comme épave de Vichy, avec une série de portraits de ses responsables de Vichy, désormais vacants, inutiles, subventionnés par les Allemands, puisqu'on est en Allemagne alors que la France est en train de se libérer.
Vous savez, ici, tout est une comédie. Une vraie guerre de tranchées entre les ministres. Ces gens-là sont en réalité des opportunistes. Des gens qui attendent la suite. Des girouettes au gré du vent. Et le vent sent mauvais.
On a l'impression que le monde se met à ressembler effectivement à un roman de Céline. Donc c'est tout à fait raccord. C'est sans doute une de ses plus grandes réussites. Et on a moins de malaise, évidemment, que devant, par exemple, Mort à crédit, où on sent bien que l'antisémitisme va bientôt surgir. Là, il faut bien reconnaître que Céline ne peut plus se payer le luxe, Gallimard veille, de manifester de l'antisémitisme. Alors, heureusement, il a les Chinois. Le péril jaune. Donc, sur ce plan-là, il n'aura fondamentalement jamais changé.
Pendant que nous parlons, il naît un Chinois toutes les secondes. Alors, ça devient très grave. Alors, il faut donner à bouffer à tout le monde.
Céline, au micro de Jean Guénaud, 1960.
Et au fond, n'est-ce pas, l'Asie a faim et l'Europe a peur. Ouais, pas. Alors, évidemment qu'ils vont venir en Dordogne.
Souvenez-vous qu'en 1950, Céline a été condamnée à l'indignité nationale. Et avec son livre « D'un château l'autre », il joue la provocation.
Quand il raconte Sigmaringen, là, pour le coup, il devient l'indigne en majesté. Parce que c'est ça, le coup de génie de Céline. C'est de dire, vous pensez que je suis indigne ? Non. Je vais vous montrer ce que c'est que moi, l'indignité. Et donc, il va littéralement retourner le stigmate. En disant, je suis encore plus indigne que ce que vous pensez. Et il va à Lecture pour tous, parce qu'il se déplace. Il va à la télévision. Et il se rend compte que ça marche formidablement. Et quand vous regardez les vidéos sur YouTube, il monologue. Il n'écoute pas du tout ce que vous êtes en train de lui dire. Et puis, alors, il a ce truc génial, c'est qu'il a le même costume, tout le temps. Et le costume, il date de Poincaré. Donc il dit, j'ai mis le costume Poincaré, parce que il s'est, là encore, il s'est réinventé physiquement, en clochard céleste. Le seul ennui, c'est que Céline, il porte toujours des cachemires, même déchirés. Regardez comment il est habillé. Il a le côté négligé chic. Et qui cultive très bien. Mais pour la télé, les cravates ou les cols de chemise sont beaucoup trop grands, donc il a un côté un peu décharné. Et puis, il est totalement démodé, puisqu'il a le costume Poincaré. Et il a cette présence télégénique à laquelle, à mon avis, il ne s'attend pas. Et donc, il monologue, machin, il marmonne. On se dit, c'est totalement étonnant d'entendre la voix de Céline. Et ça se passe très, très bien. Et là, c'est parti. C'est reparti. C'est-à-dire qu'il est redevenu en négatif, un incontournable de la libération.
Avec ce nouveau livre, Louis-Ferdinand Céline renoue avec la sphère médiatique et il multiplie les interviews où il se fabrique une image pitoyable, celle d'un homme accablé et abandonné de tous. Albert Sbinden en fut le témoin lors de son interview en 1957.
Céline était gris et sale. Il portait sur un corps affaissé un visage marqué de fièvre et d'angoisse. Ses yeux, alourdis de paupières qui semblaient avoir du mal à tenir levés,
y a quelqu'un ?
Étaient comme délavés et cependant brûlants.
Ça sent la ménagerie.
Son regard était difficilement soutenable.
Dans la table.
Oh. Mauriac, Saïgo, je ne veux pas bouffer la part des autres. Chacun son assiette.
Pas plus.
C'est pour vers le matin, revenez cet après-midi.
Le bureau de travail de Céline était encombré de livres, de caisses, de pots, de cartons, d'ustensiles divers, vides ou pleins, qu'il fallait enjamber pour se mouvoir. C'était un bric-à-brac avec des choses poussiéreuses. Un perroquet trônait sur une pile de vieux journaux.
Je ne m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse aux choses, n'est-ce pas ?
Céline, au micro d'Albert Sbinden, 1957.
Et mais croyez-vous à l'amour ? Et si on prend la vie comme une chose très amusante, ben évidemment, alors en avant pour l'amour, et alors avec toute sa vulgarité. Je n'aime pas ce qui est commun, n'est-ce pas, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas ? Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. C'est ainsi la condition humaine.
Récapitulons. Dès son retour en France, Céline joue la double carte de l'accusateur et de la victime. Il affirme haut et fort avoir été martyrisé par la résistance.
À mort les collabos !
Il entretient cette idée toxique d'une France contre l'autre, une guerre civile qu'il met en scène dans son récit de Sigmaringen. Et puis, ce n'est pas tout. À l'approche de sa mort, Louis-Ferdinand Céline nourrit une nouvelle obsession.
Louis-Ferdinand Céline, à Gaston Gallimard, le 24 octobre 1956. Cher ami, les vieillards, vous le savez, ont leur manie. Les miennes sont d'être publiées dans la Pléiade et éditées dans votre collection de poche. 20 fois que je vous le demande. La Pléiade et l'édition de poche, pas dans 20 ans! Quand je serai mort. Non. Tout de suite. Cache. Vous me comprenez ?
Pourquoi Céline tient-il autant à être publié de son vivant dans cette édition de la Pléiade ?
Oui, c'est parce que la Pléiade, bon, c'est, dès cette époque, c'est quand même une entreprise de canonisation. C'est l'entreprise de canonisation de la littérature en France. Bon, Gallimard, c'est l'entreprise patrimoniale par excellence. Et donc là, c'est rejoindre un certain nombre d'écrivains. Les seuls qui, avant, sauf Ferreur, avaient eu une Pléiade de leur vivant, c'est Gide. Et ensuite, c'est Malraux, en 47, on publie les romans. Donc, il veut cette Pléiade, et il dit, et a raison, mais vous savez, il explique à Gallimard que ça se voyage au bout de la nuit, c'est de la vente certaine, et que ça se vendra encore pendant 100 ans, et que ce sera au Bachot. Et il a raison, il avait raison.
Vous sortez vos livres, là ?
Oui, Voyage au bout de la nuit est entré au programme du baccalauréat, car Céline est un grand écrivain. Mais comme le rappelle Pascal Horry, un immense artiste peut aussi être une immonde crapule. Ensuite, que peut-on ajouter sur ces années 1950 dans la vie de Louis-Ferdinand Céline ?
Entre son retour en France et sa mort, je pense que Céline reste égal à lui-même. Ce qui me frappe, c'est que quand il ressurgit à la télévision française, Pierre Dumayet, 1957, à l'occasion de D'un château l'autre, D'un château l'autre va jouer un rôle important dans la réhabilitation, en tout cas la reprise en considération de Céline. Moi, je sais que j'ai découvert Céline par D'un château l'autre, j'ai été ébloui, absolument ébloui. On sent bien que Pierre Dumayet est quand même très embarrassé. Tout le monde se tortille un peu, mais ce qui est drôle, si j'ose dire, oui, parce qu'en 57 c'est drôle, ce serait pas drôle en 37 ou en 44, mais c'est le système de défense de Céline dans l'émission, et c'est là qu'il dit ses fameuses phrases sur le fait que, au fond, les gens sont lourds. Lui est Ariel, lui est du côté de la légèreté comme Lucette.
Quel mot voudriez-vous prononcer, quelle phrase voudriez-vous écrire avant de disparaître ?
Ils étaient lourds, voilà ce que je pense, oui.
Céline, au micro d'Albert Sbinden, 1957.
En pensant, les hommes en général, ils sont horriblement lourds, n'est-ce pas ? Ils sont lourds et épais, voilà ce qu'ils sont, n'est-ce pas ? Plus que méchants et bêtes en plus, mais ils sont surtout lourds et épais.
Et vous avez essayé d'être léger ?
Oh, j'ai pas besoin d'essayer. Je n'ai pas besoin d'essayer.
Alors, ça paraît un système problématique, parce qu'on pourrait dire qu'il est très lourd dans sa haine des Juifs, par exemple. Mais il faut entrer, par empathie, dans la logique de l'autre. Je pense qu'il se voit comme victime, et qu'en 57, il ne va pas dire qu'il est victime parce qu'il a eu raison politiquement, etc. Mais parce qu'au fond, il est presque seul dans son genre, donc avec ses malveilles, ses deux ou trois... C'est ça qu'on pourrait d'ailleurs qualifier d'anarchisme de droite. Hein, c'est-à-dire que tout se pourrit, sauf mes potes. Il parle de potes, hein, d'ailleurs, pour Bagatelle pour un massacre. Ça commence par une épigraphe où il rend hommage à des potes. Donc, quelques potes, oui, puis le reste à la poubelle. Et là où il est quand même très malin, c'est en mettant en avant ce qu'on ne s'attend pas à voir mettre en avant de son côté, mais c'est lui qui le dit, la légèreté face à la lourdeur. Et c'est sans doute là qu'il y a vraisemblablement un petit mystère de Céline. C'est peut-être la mère d'Antelière. À la fois la réalité et puis la manière dont il mythifie sa mère. C'est paradoxal pour quelqu'un dont on peut penser qu'il était aussi misogyne, par ailleurs, y compris dans sa manière de se comporter à l'égard de ses nombreuses femmes, et en particulier de ses nombreuses épouses. Mais là, ça me paraîtrait un art de droite. Tous pourris, sauf mes potes, et toutes des putes, sauf ma mère.
La femme est très tracassée parce qu'elle veut rester jeune. Elle se ménope aussi, avec tout ça. Il y a tout le bazar génital qui est très délicat, qui en fait une martyre, n'est-ce pas ?
Céline, au micro de Jean Guénaud, 1960.
Alors, cette martyre, elle vit quand même. Alors, elle saigne pas, je dirais. Elle va chercher le médecin, elle se fait opérer, pas opérer, réopérer, contre-opérer. Puis elle accouche entre temps, elle se déforme. Alors ça fait beaucoup. Elle veut rester jeune, elle veut conserver sa ligne, enfin, une fourmi. Elle ne veut rien foutre, elle ne peut rien foutre. Elle n'a pas de muscles, c'est-à-dire tout, c'est un problème immense, n'est-ce pas ? Et qui n'est pas. Qui est mal reconnu, qui nourrit des instituts de beauté, des charlatans, et des pharmaciens. Ça ne présente pas un intérêt médical quelconque.
Ces joyeuses considérations sur l'anatomie des femmes ont été prononcées dans l'ultime interview de Louis-Ferdinand Céline. Car le 1er juillet 1961, l'écrivain collaborationniste rend l'âme, comme nous le raconte Régis Tétamanzi.
Alors il meurt d'une rupture d'anévrisme. La veille, il a mis le point final à son dernier roman, Rigaudon, qui paraîtra donc posthume. Et le lendemain, il se sent mal dès le matin. Donc il est médecin, il savait très bien ce qui allait lui arriver, à mon avis. Il n'a pas voulu aller à l'hôpital. Et donc il est mort dans la soirée.
Voilà. Chez lui à Meudon.
Chez lui à Meudon, oui.
Quelle a été votre plus grande joie dans la vie, justement ?
Louis-Ferdinand Céline, au micro de Louis Powells. 1959.
Ben mon Dieu, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. C'est pas ça faut appris que... j'avoue que je serais content quand je mourrais. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. C'est tout, j'ai pas besoin, je ne suis pas assoiffé de douleur.
La mort n'est pas annoncée tout de suite, donc c'est... Elle est gardée secrète... Pendant 3 ou 4 jours, donc on voit bien que quand même ça reste sulfureux. On a 2 reportages, dont celui de Roger Grenier à France Soir, qui va là-bas. Une phrase célèbre de Grenier dit « Il est toujours triste d'être obligé d'avoir honte d'un grand écrivain ».
Sous une pluie chaude et lourde, les obsèques de Louis Destouches ont lieu à Meudon, au sud-ouest de Paris, le 4 juillet 1961. Au cimetière, devant le caveau, le comité est restreint. Autour de la veuve, Lucette Destouches, une 50aine de personnes, pas plus. Uniquement quelques vieux amis, dont Lucien Rebattet.
Lucien Rebattet, dans Mémoire d'un fasciste, 1976. Nous rentrons à l'instant de l'enterrement de Céline. Il est mort samedi vers 6h du soir d'une congestion cérébrale. Depuis le matin, il se sentait encore plus patraque que d'habitude. Il avait les nerfs à vif. Il s'est étendu un instant en disant à Lucette « Je vais crever ». À quoi Lucette lui répond avec son air serein « Tu dis ça tous les jours ». « Non, cette fois, je sens que je vais crever ». Peu après, il a perdu connaissance et en 20 minutes, tout était fini.
Dans quelles circonstances avez-vous appris la mort de Céline ?
Par un coup de téléphone de sa femme qui m'a appelé le 1er juillet 1961, ou vers 5h du soir à mon cabinet, en me disant que Céline était au plus mal et que je vienne dès que possible.
Témoignage du docteur Villemain, médecin traitant de Céline.
Et pourquoi est-ce que Lucette Destouches ne vous a pas appelé plus tôt ?
Parce qu'il n'a pas voulu, n'est-ce pas ? Elle lui a proposé, on va appeler Villemain. Il a répondu non, je ne veux pas de piqûre, je veux crever tout seul.
Allez-vous-en.
Ne fermez pas la porte.
Si vous deviez mourir à l'instant, ce qu'à Dieu ne plaise, quelle serait votre dernière pensée ?
Oh ben, au revoir et merci.
Louis-Ferdinand Céline, au micro de Louis Powells, 1959.
Et ça suffit, oui. Oh, doucement, je ne vous veux aucun mal, mais mon Dieu, vous vous occupez bien de vous-même, ça va, moi je suis trop occupé. J'ai manqué l'égoïsme, c'est assez rare, parce que le monde en est plein. Ça.
Dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision, la mort de Louis-Ferdinand Céline, écrivain réprouvé par le pouvoir gaulliste, ne fait pas du tout les gros titres.
En 61, il n'y a pas grand-chose. On signale sa mort, comme on signalerait celle de, je sais pas moi, d'un écrivain de seconde zone. Ou, voilà, on dit tel écrivain est mort, quoi, en gros. Il y a une petite recension de l'enterrement dans le Figaro. En fait, dans la fin de sa vie, il y a eu le pic d'un château l'autre, et puis ensuite ça retombe. Et Nord, qui à mon avis est son second chef-d'œuvre, n'est pas reçu comme il devrait l'être. Voilà. C'est-à-dire qu'il a retrouvé une place, mais qui n'est pas la place éminente qu'il avait, quoi. C'est devenu un écrivain connu parmi d'autres.
Tendez vos pointes, 5e proprement fermée.
et tandis que Louis-Ferdinand Céline retourne à sa solitude pleine de fureur et de vision, juste au-dessus de sa tête, au premier étage, où il n'est jamais monté, toute la journée, les élèves de Lucette Almanzor dansent, 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 dansent.
Ayez en tête que les 10 dernières années de sa vie, Louis-Ferdinand Céline a agi avec force et perfidie pour qu'une autre vérité s'impose dans la mémoire nationale.
La vérité littéraire va s'imposer comme la vérité historique. Mais il faut tout le temps déconstruire cette vérité. Et c'est ça qu'il y a de très compliqué, parce que les documents, on ne les a pas pour pouvoir faire ça. Il y a toujours le risque que quelqu'un vous dise « mais vous n'avez pas vu tel dossier ». Mais évidemment, puisqu'ils sont dans des archives privées. Et que lorsque l'on demande d'y avoir accès, on n'a pas accès. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué de faire l'histoire de Céline. Et je trouve ça très dommage, parce que je pense que c'est vraiment une histoire qui a à voir avec un nœud dans l'histoire de France, et que les Céliniens ne servent pas la mémoire de Céline. Voilà. Ils la suridéologisent, alors qu'il serait plus intéressant de penser Céline dans le cadre d'une série comme un cas proéminent de ce qu'a été la collaboration, et surtout la gestion de la mémoire de la collaboration. Parce qu'il n'y a pas que Céline qui s'est raconté des histoires dans ce pays. On s'est raconté beaucoup d'histoires. Et c'est là où Céline est intéressant, non pas pour ce qu'il est, mais parce qu'il emblématise une façon qu'ont eu les Français de ne pas vouloir voir jusqu'où ils étaient descendus quand ils avaient accepté la politique de collaboration allemande. Alors, je suis d'accord, je ne cherche pas du tout à minorer l'importance de la résistance, qui est absolument fondamentale. Je cherche simplement à dire qu'il n'y aurait pas eu le général de Gaulle, il n'y aurait pas eu la fiction de la France résistante. Il aurait fallu mesurer ce que Vichy nous avait fait perdre par rapport à la tradition de l'an 1, c'est-à-dire à la création de la République. Et ça, si vous voulez, pour moi, ça reste quelque chose absolument abyssal. D'où mon intérêt pour le cas Céline, qui n'est pas un intérêt pour la personne, qui est comment est-ce qu'on se raconte des histoires et comment on finit par y croire.
En conclusion de ce 9e épisode, retenez que l'amnistie dont a joui Louis-Ferdinand Céline en avril 1951 est plus que douteuse. L'écrivain collaborationniste a profité, avec d'autres, d'une forme de rédemption précipitée et indue au nom d'impératifs politiques liés aux enjeux de la guerre froide. Et depuis, les défenseurs acharnés de la mémoire célinienne s'appuient sur cette amnistie accordée par la République pour minimiser la culpabilité de Céline sous l'occupation allemande. Une aubaine. Ainsi, après la mort de Céline, au fil des années, des Céliniens comme Lucien Combel, écrivain d'extrême droite, ont fait entendre une petite musique au service d'une mémoire frelatée.
Je ne vois pas pourquoi je mettrais de côté en disant « le Céline pamphlétaire, c'est du Céline mineur, l'autre Céline, c'est le Céline majeur ». Non. Louis-Ferdinand Céline, c'est une cathédrale qu'on prend en entier. Et je crois que je ne suis pas seul de cet avis. Je crois que vous poseriez la question à Philippe Solers, il répondra comme moi.
Commente en 60 ans, l'écrivain collaborationniste pro-nazi est-il devenu une cathédrale nationale ? C'est l'horizon du dernier épisode. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, Le fantôme de Meudon. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour est un podcast original de France Inter.